Hélène Philippe pour le journal. Bonsoir Hélène.
Bonsoir à tous. Faut-il débattre de la vaccination obligatoire? Oui, pour la présidente de la Commission européenne. Pas encore pour la France. Question, alors que la cinquième vague s'aggrave, les hospitalisations progressivement augmentent. Plusieurs hôpitaux déclenchent le plan blanc. Il faut que la parole des femmes se libère, mais nous ne voulons pas d'une société de l'inquisition. Ces propos sont ceux d'Emmanuel Macron en Conseil des ministres aujourd'hui sur l'affaire Nicolas Hulot. Dans l'actualité encore, les États-Unis disent avoir des preuves que la Russie envisage une agression de l'Ukraine. 40 licences de pêche de plus pour les bateaux français accordées par Guernesey. Une championne de judo au visage tuméfié. Elle accuse son compagnon et entraîneur qui est relaxé, mais le parquet fait appel. Et puis un Lionel Messi qui brandit un ballon d'or, c'est ce que les supporters du PSG attendent ce soir au Parc des Princes. Et au téléphone sonne Fabienne. Et
ben ce soir, on regarde deux chiffres. Celui qui dit que de plus en plus d'entreprises diversifient leur personnel. Ils font entrer des jeunes maghrébins, des jeunes noirs. Ils y sont attentifs, ils ont compris que le staff était bien trop blanc. Et puis, il y a cet autre chiffre qui dit toujours qu'un candidat issu de la diversité aura toujours 32% de chances de moins de franchir la première phase d'un recrutement. La discrimination à l'embauche était au cœur du sommet de l'inclusion cette semaine. Et ce soir, elle est dans le téléphone sonne au 01 45 24 7000.
France Inter. Face à la cinquième vague, face au variant Omicron, faut-il aller jusqu'à la vaccination obligatoire? La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, met le sujet sur la table.
So first of all, this is... En premier lieu, je rappelle que cela relève de la souveraineté nationale. Je n'ai donc pas de recommandation à faire. Ensuite, si vous me demandez mon avis personnel, nous avons des vaccins. Ils peuvent sauver des vies, mais ils ne sont pas utilisés efficacement partout. Quand vous regardez les chiffres, il y a encore un tiers de la population européenne qui n'est pas vaccinée. C'est beaucoup. Certes, tout le monde ne peut pas être vacciné, comme les tout petits enfants ou les personnes avec des contre-indications, mais la majeure partie pourrait l'être. Il est donc légitime et compréhensible d'avoir ce débat entre nous sur la vaccination obligatoire. C'est en effet un débat dont on ne pourra pas faire l'économie.
Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, traduite par Nathalie Hernandez. L'idée fait déjà son chemin chez nos voisins allemands. Le Parlement pourrait trancher d'ici à la fin de l'année. Et en France, le PS réclame la vaccination obligatoire depuis longtemps. Au sein de la majorité, François Bayrou le souhaite aussi. Mais pour l'instant, Maxence Lambrecq, l'exécutif s'y refuse.
En effet, ce débat n'a pas lieu d'être, assure une ministre. François Bayrou ne dit pas tout haut ce qu'Emmanuel Macron pense tout bas, ajoute un conseiller de l'exécutif. C'est une initiative très personnelle et vite expédiée par le porte-parole du gouvernement tout à l'heure à la sortie du Conseil des ministres. Gabriel Attal rappelle que l'Allemagne, l'Autriche n'ont pas de passe sanitaire.
Ce sont des pays qui, bien souvent, n'avaient pas mis en place les mesures que nous avons mises très tôt pour avoir une incitation maximale à la vaccination. Et donc nous restons fidèles à cette stratégie qui a porté ses fruits.
52 millions de premières doses et un ministre complète. La valeur ajoutée de la vaccination obligatoire me paraît pas formidable. Aller chercher les derniers lurons irrationnels poserait des polémiques et des problèmes d'ordre public. Et puis le président du conseil scientifique en a ajouté une couche ce matin en commission des lois à l'Assemblée.
Si on passait une obligation vaccinale, vous croyez qu'on va leur envoyer les gendarmes? Hein? Et comment on le contrôle?
N'allons pas au-delà du pass sanitaire, insiste Jean-François Delfraissy.
Est-ce qu'on doit nous priver quand même d'une certaine forme de liberté? Il y a quand même un moment donné où on doit commencer à se poser ce type de questions. Et surtout, en quittant cet aspect plus éthique, en termes d'efficacité, est-ce que ça apporterait vraiment quelque chose?
Le gouvernement estime que la fin de la gratuité des tests depuis la mi-octobre est bien plus efficace et beaucoup moins sensible.
Et l'ouverture de la troisième dose à tous a aussi donné un coup de fouet à la campagne de vaccination. Plus de 8 millions de personnes auront fait ce rappel ce soir. L'Union européenne annonce par ailleurs que le vaccin Pfizer pour enfants, dose diluée donc, sera disponible le 13 décembre. Sur ce sujet, la France attend l'avis du comité d'éthique. Alors qu'on vient de passer le cap des 10 000 personnes hospitalisées à cause du Covid, la tension commence à être forte, comme aux hôpitaux civils de Colmar, qui déclenche le plan blanc, le chef du pôle urgence, Yannick Godvalès.
Tous les patients admis en réanimation qui sont des Covid sont des non-vaccinés. C'est un message qui est tapé sur la table depuis X temps et qui est toujours aussi vrai. Tous les patients graves sont non-vaccinés. et les services de réanimation sont saturés par des patients qui ne devraient pas être là et qui ne seraient pas là s'ils avaient été vaccinés. Ils font face, mais avec des nécessités d'augmentation de capacité, comme les fois précédentes. Et tous les services actuellement Covid sont en train d'augmenter leur capacité d'accueil parce que la vague est de nouveau là, la Xème, et que ça continue et que pour l'instant, on n'en a pas encore fini avec cette pathologie.
Le chef du pôle des urgences de Colmar avec Patrick Janton de France Bleu Alsace. Plan blanc déclenché aussi à Saint-Malo, Dinan, Cancale en Ille-et-Vilaine depuis hier. Et face aux variants Omicron, Paris durcit les conditions d'entrée sur le territoire français. Il faudra un test négatif de moins de 24 heures pour les non-vaccinés, moins de 48 pour les vaccinés. Les vols vont reprendre samedi avec 10 pays de l'Afrique australe, mais seulement pour les Français, les ressortissants de l'Union européenne et les diplomates.
Voici des mots qui devraient faire réagir ceux d'Emmanuel Macron sur l'affaire Hulot.
C'était ce midi, en Conseil des ministres, face aux membres de son gouvernement. Bonsoir Simon Le Baron.
Bonsoir.
Qu'a dit le président ?
Eh bien, en substance, nous raconte un ministre que la justice ne se rend pas dans les médias. Nous n'accepterons jamais une société de l'opacité ou de la complaisance, mais nous ne voulons pas non plus d'une société de l'inquisition. Voilà le président dans le texte, selon les informations de France Inter. Au fond, la position d'Emmanuel Macron n'a pas changé depuis l'époque où il soutenait son ministre de l'écologie après les premières accusations contre Nicolas Hulot en 2018. Le chef de l'État semble en tout cas moins embarrassé que ses ministres interrogés depuis une semaine sur les plateaux. Marlène Schiappa, par exemple, hier sur LCI.
En fait, quand on a préparé cette émission, je vous ai dit qu'hier, on avait un séminaire de lutte contre le séparatisme. Et vous avez dit, moi, Nicolas Hulot, j'en parlerai pas parce que ça m'intéresse
pas. Moi, je vous ai dit ça.
Ce que vous avez dit à ma conseillère, manifestement, pour préparer l'émission.
Alors là, je m'inscris en faux. Jamais.
D'accord.
Marlène Schiappa avec Elisabeth Partichoux hier. Alors, en s'exprimant pour la première fois sur cette affaire depuis une semaine, même si c'était dans le huis clos du Conseil des ministres, eh bien, le président a rappelé la ligne officielle, faciliter la libération de la parole sans tomber dans le tribunal médiatique. Ça, ce sont les mots d'un membre du gouvernement. Il y a 3 ans déjà, le porte-parole de l'Élysée assurait qu'Emmanuel Macron restait face aux accusations d'une sérénité de marbre.
Information France Inter signée Simon Le Baron et une nouvelle enquête sur le comportement de Nicolas Hulot envers les femmes est annoncée pour demain dans l'hebdomadaire Paris Match. Ce ne sera pas le Zénith, mais Villepinte. Éric Zemmour voit plus grand pour son premier grand meeting de candidat. Son équipe revendique 19 000 inscrits pour le moment. La jauge du Zénith est de 6 000. Un changement de salle alors que la CGT solidaire et des militants antifascistes avaient promis de manifester en direction du Zénith pour, disent-ils, faire taire Zemmour. Bonne nouvelle à présent pour les pêcheurs français en plein bras de fer avec Londres. Guernesey accorde 40 licences supplémentaires. Il en manque encore au total une grosse centaine selon la France. L'Union européenne veut que le contentieux soit réglé avant le 10 décembre maximum. Bonsoir Mathilde Dehimy.
Bonsoir Hélène.
Ces 40 licences, donc, est-ce que ça veut vraiment dire que le dossier avance ?
Alors, c'est une éclaircie qui était annoncée, espérée même par le gouvernement français. Les efforts payent, réagit ce soir la ministre de la Mer, Annick Girardin. Elle a toujours dit qu'il était plus facile de négocier avec Guernesey et que la liste serait bientôt connue. C'est chose faite. Et le compte y est presque côté normand, Dimitri Rogoff, président du comité régional des pêches.
On n'a jamais eu avec Guernesey les échanges qu'on a pu avoir avec Jersey, où le sujet est monté haut dans les tours. Bon, avec Guernesey, on a toujours eu des relations apaisées. Là, on vient de recevoir la liste, tout colle, le compte est bon, on a retrouvé nos 14 bateaux qu'on avait sollicités. C'est plutôt positif.
Il n'y a jamais eu de conflit avec Guernesey. Les licences déjà octroyées sont reconduites tous les mois. Le plus dur reste à faire avec celle de Jersey, notamment. La Commission européenne a fixé un ultimatum à Londres dans 10 jours. Dimitri Rogoff.
C'est un rendez-vous important pour nous parce que quelque part, c'est l'Europe là qui commence un petit peu à se mouiller, à taper du poing sur la table, c'est ce qu'on avait réclamé. Donc là, on va voir ce qui se passe dans la semaine. Si potentiellement, il y a des mesures de rétorsion au niveau européen qui sont prises ou pas, ça concerne Jersey, ça concerne le statut des navires remplaçants, enfin, ça concerne des sujets qui sont très techniques et qu'il est temps de discuter.
Les mesures techniques, c'est le gros dossier qui suivra celui des licences. La taille des filets, les zones de pêche, les tonnages par espèce, tout peut être soumis à négociation et c'est donc loin d'être fini.
Explication signée Mathilde Dehimy. La Russie est-elle en train de préparer une agression, une invasion de l'Ukraine ? Les États-Unis en sont persuadés et disent avoir des preuves aujourd'hui, alors que Kiev et les Occidentaux s'inquiètent depuis plusieurs semaines de mouvements de troupes russes à la frontière. Moscou dément toute velléité belliqueuse, mais le souvenir de l'annexion de la Crimée en 2014 est dans toutes les têtes. Le chef de la diplomatie américaine prévient, si le Kremlin passait à l'acte, Washington riposterait.
Nous sommes profondément préoccupés par les preuves montrant que la Russie a fait des plans pour mener des actions agressives importantes contre l'Ukraine. Nous avons déjà vu ce schéma en 2014 lorsque la Russie a envahi l'Ukraine pour la dernière fois. À l'époque, comme aujourd'hui, ils augmentent considérablement les forces de combat près de la frontière. Ils intensifient la désinformation pour dépeindre l'Ukraine comme l'agresseur et donc justifier une action militaire planifiée. Nous ne savons pas si le président Poutine a pris la décision d'envahir l'Ukraine. Nous savons qu'il est en train de mettre en place la capacité de le faire rapidement s'il le décide. Nous avons clairement indiqué au Kremlin que nous répondrons résolument, notamment avec une série de mesures économiques à fort impact que nous nous sommes abstenus d'utiliser dans le passé. Nous sommes prêts à faire payer un prix élevé pour une nouvelle agression russe en Ukraine.
Anthony Blinken, traduit par Benjamin Illy, qui s'exprimait à l'issue d'une réunion de l'OTAN à Riga, en Lettonie. Une rencontre est prévue demain entre le chef de la diplomatie américaine et son homologue russe. Et voici un petit guide qui devait rester à usage interne, à destination des fonctionnaires de la Commission européenne à Bruxelles, mais qui a particulièrement remué l'Italie et le Vatican. Il s'agissait d'inciter à une communication inclusive qui reflète la diversité, dire « chers collègues » plutôt que « messieurs, mesdames », et pour que chacun se reconnaisse dans sa religion. Éviter d'évoquer les vacances de Noël, préférer la période des vacances. Ça n'a pas du tout plu au Vatican et en Italie, au point que le guide à peine édité va être corrigé. Bruce de Galzin est à Rome.
Basta, on ne peut pas supprimer notre histoire, annuler notre identité. L'extrême droite italienne a immédiatement réagi au guide inclusif de la Commission européenne. Même le Vatican a réagi par la voix de son numéro 2, le cardinal Parolin.
La tendance, purtroppo,
la tendance, malheureusement, est de tout uniformiser sans même respecter les différences légitimes qui, naturellement, ne doivent pas devenir une source de discrimination, mais doivent être vraiment intégrées.
La différence dans les prénoms, notamment. La Commission conseille à son personnel de ne pas utiliser de termes typiques d'une religion lorsqu'ils décrivent une situation. Il faudrait préférer Malika et Jules à Marie et Jean. Pour le cardinal Parolin, la différenciation est essentielle, la reconnaissance des racines chrétiennes de l'Europe également.
Bien sûr, nous savons que l'Europe doit son existence et son identité à de nombreuses contributions. Détruire la différence et détruire les racines, c'est détruire la personne.
L'ex-président du Conseil italien de centristes, Matteo Renzi, a lui réagi au retrait du document qu'il avait qualifié d'absurde et qui sera retravaillé. Il estime que l'identité culturelle est une valeur, pas une menace. Rome, Bruce de Galzin, France Inter.
C'est une décision de justice qui émeut le monde du sport, le monde du judo en particulier.
La championne Margot Pinault, le visage tuméfié, accuse son compagnon et entraîneur de l'avoir violemment frappé le week-end dernier. Jugé hier, il est relaxé, mais l'affaire n'est pas terminée car le parquet de Bobigny fait appel de cette relaxe. Une affaire pour deux versions contradictoires, Margot Steve.
Margot Pinault décrit un déchaînement de violence, des coups déclenchés selon elle par une dispute au sujet du départ prochain de son compagnon pour Israël. Maître Stéphane Maugendre est l'avocat de Margot Pinault.
Il l'a pris par les cheveux, il l'a traîné vers le sol. Elle a perdu ses cheveux on les retrouve dans l'appartement. Et ensuite, elle parle d'un torrent de coups, et notamment de coups de poing, et elle a des hématomes partout sur le haut du corps.
D'après la judoka, son entraîneur avait déjà tenté de l'étrangler et exercer des violences psychologiques contre elle, même si elle n'avait jusque-là jamais porté plainte. Alain Schmitt, lui, raconte être en réalité la victime dans cette affaire, son avocat, maître Malik Belloul.
Il a cherché à se défendre des coups de Margot Pinault, mais il n'en a porté aucun. La seule chose qu'il est tenté de faire, c'est de la retenir et de l'empêcher de le frapper. C'est tout.
Des arguments qui ont visiblement convaincu hier le tribunal, puisque les juges ont prononcé une relaxe à son encontre, estimant ne pas avoir assez de preuves pour établir la culpabilité d'Alain Schmitt. Une décision incompréhensible pour Margot Pinault et pour le parquet de Bobigny, qui avait requis un an de prison avec sursis à l'encontre de son entraîneur.
Margot Pinault qui a posté une photo de son visage tuméfié sur les réseaux sociaux, rapidement soutenue par plusieurs champions, Teddy Riner et Clarisse Agmenienou notamment, qui s'est dite choquée par la première relaxe de la justice. En bref, c'est peut-être la résolution d'une affaire vieille de près de 30 ans. Un homme de 55 ans a été placé en garde à vue, soupçonné d'avoir tué Nadège Desnois, une adolescente de 17 ans, à Château-Thierry dans l'Aisne en 1994. Il s'agit d'un homme dont l'ADN a été prélevé dans le cadre d'une récente affaire de violence conjugale. Elle est devenue femme, reconnue comme telle à l'état civil, mais on lui refuse d'être considérée comme mère sur l'acte de naissance de sa fille. Après 8 ans de combat judiciaire, Claire, 52 ans, transgenre, espère enfin être reconnue. Le procureur général de la cour d'appel de Toulouse s'y est dit favorable aujourd'hui, mais ce n'est qu'un demi-soulagement pour les deux mères qui appréhendent maintenant la décision des juges. Leur avocate, Clélia Richard.
D'abord, elles sont éprouvées. Il y a eu beaucoup d'émotions et de larmes parce que leur enfant a 8 ans et que tout ça, c'est quand même un peu lourd et que c'est une situation d'insécurité juridique pour l'enfant qui devient vraiment insupportable là, pour la vie de famille. Mais elles attendent maintenant, elles attendent le 9 février parce que la décision sera rendue le 9 février. Et avant cette date, je pense qu'elles ne se permettront pas d'y croire. En dépit de tout ce qui s'est dit, d'une solution qui converge vers l'établissement d'une filiation maternelle, c'est difficile d'y croire encore, en fait.
L'avocate de Claire, mère transgenre, au micro de Mathilde Vincenot, si la justice accordait une filiation maternelle à cette femme, ce serait une première en France. Comment les entreprises françaises ont-elles réagi et rebondi face à la crise sanitaire? L'INSEE publie aujourd'hui le bulletin de santé des entreprises en 2020, année de crise sans précédent. L'activité s'est écroulée du jour au lendemain. Bonsoir Lauriane Delanoë.
Bonsoir.
Alors sans surprise, le pire a été pour l'hôtellerie-restauration, les services, l'industrie du transport. Mais Lauriane, l'INSEE montre aussi de fortes disparités d'une entreprise à l'autre au sein d'une même branche.
Oui, et l'innovation aide à s'en sortir en pleine crise. Globalement, quand on compare des entreprises de même taille, même profil, celles qui ont lancé de nouveaux services ont limité la casse, un meilleur chiffre d'affaires que leurs concurrents. L'INSEE met principalement en avant la vente en ligne et la livraison à domicile. Par ailleurs, les analystes de l'Institut de statistiques font un constat encourageant pour l'hébergement et la restauration. C'est la branche qui a eu le plus recours aux aides face aux restrictions sanitaires. Et bien, en termes de trésorerie, ces entreprises ont su rebondir vite dès l'été 2020, ce qui n'est pas le cas des cinémas ni des salons de coiffure.
Autre secteur très touché, hein, toute la filière de l'aéronautique et du spatial.
23 000 emplois perdus l'an dernier, sans compter l'intérim. L'INSEE parle d'un fort décrochage, c'est 8% des effectifs en moins. Une baisse 4 fois plus forte que pour le reste de l'économie. En proportion, les plus frappés sont les petites entreprises de la chaîne de construction d'avions neufs, des fournisseurs de pièces électroniques par exemple. Mais c'est une baisse limitée comparée à la chute de l'activité dans cette filière, moins 37%. Le décalage s'explique par le recours massif à l'activité partielle en 2020. Ce dispositif est prolongé cette année. Alors oui, les patrons voient une reprise, mais elle est limitée. Une bonne partie ne rappellera pas autant d'intérimaires qu'avant.
Et le chiffre d'affaires dans le secteur a baissé 32% dans la filière donc aéronautique et spatiale, selon les chiffres de l'INSEE. On vous parlait ici même hier des recommandations du groupe d'experts sur le SMIC. Il n'est pas favorable à un coup de pouce sur le salaire minimum en janvier, ce qui fait bondir les syndicats, alors que l'inflation forte s'installe et que les ménages s'inquiètent de leur pouvoir d'achat. C'est au gouvernement de trancher d'ici 15 jours et la ministre du Travail annonce déjà qu'elle fera plus que les 0,6% d'augmentation recommandée par les experts. Le dernier volet de la réforme de l'assurance chômage, par ailleurs, entre en vigueur aujourd'hui. Il faudra avoir travaillé 6 mois et non plus 4 au cours des 24 derniers mois.
Et la suite, c'est du foot, non? Une petite fête qui se prépare au Parc des Princes.
Au Parc des Princes, voilà, sur la pelouse. C'est pas tous les jours, quand même, que le Ballon d'Or est sur cette pelouse. Joueur du PSG, Lionel Messi, après son 7e sacre, est très attendu par les supporters. Il vient soulever sa récompense sur la pelouse, donc en amont de l'échauffement et du match face à Nice. 16e journée de Ligue 1, Steve est venu tout spécialement.
Ça va être une belle soirée, je pense. Déjà, c'est bien pour la France, déjà. C'est une belle image à l'étranger. Après, en même temps parisien, oui, ça fait plaisir au sport parisien, ça c'est sûr, je dis pas le contraire. Mais bon, on attend la suite. Ça fait rêver, mais sur le terrain, c'est pas encore ça pour l'instant. Ça augure de bonnes choses pour la suite, on verra bien.
Donc dès ce soir...
On veut 4-0, c'est bien.
Voilà, on tient les fondamentaux avec ce supporter au micro d'Alexandre Vaux. Peut-être pas au niveau d'un ballon d'or, mais de beaux cadeaux quand même que je voulais signaler pour ceux qui affectionnent les calendriers de l'Avent.
Vous vouliez m'offrir.
Un mois avant Noël. Mais c'est en ligne, c'est pour vous, Fabienne. Tous les bons conseils du service culture tous les matins et plein de nouveaux épisodes des podcasts qu'on connaît très bien. Olma, les Odyssées bestioles, Oli, de quoi occuper des enfants parfois souvent trop impatients.
Voilà, et les adultes aussi, pourquoi pas, ça marche pareil. Hélène Philly, merci beaucoup. On se retrouve bien sûr demain. Nous, on reste ensemble dans un instant, c'est le téléphone sonne. On va parler de discrimination à l'embauche ce soir. On est toujours très mauvais par rapport au reste des pays de l'OCDE, nous en France. Allez, à tout de suite, un œil sur le ciel d'abord.
La météo avec les œufs de Loué. Savourez les œufs fermiers de Loué, de poules élevées en liberté. Loué, libre par nature.
Jean-Pierre Hameau au programme de demain, moins de pluie, un peu plus de soleil.
Et oui Fabienne, le soleil va s'imposer toute la journée, du Languedoc-Roussillon à la région PACA. En contrepartie, Mistral et Tramontane vont souffler jusqu'à 70 km/h. Puis partout ailleurs, prévoyez un ciel dit de traîne, avec d'abord de belles éclaircies entre le sud-ouest et la région Centre-Val-de-Loire, mais aussi entre la région parisienne et les Hauts-de-France. Et beaucoup plus de nuages bourgeonnants des Pyrénées à la région Auvergne-Rhône-Alpes et de la Bourgogne-Franche-Comté la région Grand Est. Ces nuages lâcheront par moment quelques averses de pluie, voire de la neige à partir de 400 mètres d'altitude sur les Vosges, le Jura et le Massif central, 500 mètres sur les Alpes du Nord et 800 mètres sur les Pyrénées.
Et les températures repartent à la baisse.
Absolument, elles seront effectivement froides au lever du jour, comprises généralement entre moins 1 et 5 degrés. Les maximales repasseront en dessous des normales saisonnières. N'attendez pas plus de 4 degrés à Colmar, 5 à Chartres. Prévoyez 6 à Paris comme à Lille et Strasbourg, 7 à Lyon, à peine 8 degrés à Toulouse et 9 à Bordeaux. Avec le soleil, le mercure affichera tout de même 13 degrés à Marseille, 14 à Ajaccio et 15 à Bastia.
Jean-Pierre Hameau de Météo France, merci beaucoup.